إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، دونك on commence aujourd'hui le cours numéro 10 dans l'explication du livre Iqtida Sirat al-Mustaqim, Mukhalafat Ashab al-Jahim, écrit par le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, qui est mort en l'an 728 Hijri, et avec les commentaires du Cheikh Salih al-Fawzan, de ce livre qui s'intitule Al-Ta'liq al-Qawim ala Kitab Iqtida Sirat al-Mustaqim. Donc, on est arrivé à un passage maintenant où le cheikh explique les versets qui ont rapport avec les mises en garde d'Allah subhanahu wa ta'ala vis-à-vis des kuffars, vis-à-vis des gens du livre, al-Yahoud wa al-Nasara. Et donc, on avance maintenant dans les preuves que le cheikh a ramenées à ce sujet. Il dit maintenant, qala ta'ala, alam tara ila alladhina tawallaw qawman ghadiba Allahu alayhim ma hum minkum wala minhum. وهم المنافقون الذين تولوا اليهود باتفاق أهل التفسير وسياق الآية يدل عليه. C'est-à-dire que le cheikh il explique, il dit, en citant le verset 14 dans sourate Al-Mujadala, donc il mentionne ce verset-là, puis il explique maintenant la signification de ce verset-là. N'as-tu pas vu ceux qui ont pris pour alliés des gens contre qui Allah s'est mis en colère, qawman ghadib Allah alayhim, un peuple qui sont mardoub alayhim. N'as-tu pas vu ceux qui ont pris pour alliés des gens contre qui Allah s'est mis en colère? Ils ne sont ni des vôtres ni des leurs, et ils jurent mensongèrement. Ils jugent en mentant alors qu'ils savent. Ils jurent en mentant. Ce sont les munafiqoun. Et ils ne sont ni des vôtres ni des leurs, ce sont les juifs de Médine. Ils ne sont pas des musulmans, puis ils ne sont pas des mushrikin. Donc ce sont les juifs al-Yahoud. Donc, je répète le verset encore une fois. N'as-tu pas vu ceux qui ont pris pour alliés ceux contre qui Allah s'est mis en colère? C'est-à-dire les hypocrites. Ils prennent pour allier les juifs, ceux contre qui Allah est en colère. Ils ne sont ni des vôtres ni des leurs, c'est-à-dire ce ne sont pas des hypocrites, ce ne sont pas des mushrikines, puis ce ne sont pas des arabes, puis ce ne sont pas des musulmans. Ce ne sont pas des mushrikines, ce ne sont pas des musulmans. Et ils jurent mensongèrement alors qu'ils savent. C'est-à-dire, ils prétendent quelque chose, ils vont même jusqu'à jurer, alors que c'est même, ils savent qu'ils sont en train de mentir, et ils savent la vérité. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il va expliquer maintenant ce verset-là. Cheikh Ibn Taymiyyah, ça c'est le passage numéro 26, qu'il mentionne ici, le Cheikh, il dit que ce sont les hypocrites qui ont pris pour alliés les juifs. Et ça, tous les savants de tafsir sont d'accord sur cette explication-là. Tous les savants de tafsir sont d'accord sur cette explication-là. Et le contexte du verset indique que c'est de ceux-là qu'on parle. Tous les savants de tafsir sont d'accord là-dessus. Maintenant, on lit l'explication de Cheikh Al-Fawzan. du passage numéro 26 à la page 70 dans son livre, le volume 1. Donc il dit قوله وقال تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون الآية هنا جاءت في سياق أعمال المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر لأن في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا فوق مرضهم وقد وصفهم تعالى في غير ما آية من علاماتهم أنهم يوالون الكفار ويتولونهم ويحبونهم ويناصرونهم ويؤيدونهم ضد المسلمين ومعنى قوله تعالى تولوا قوما أي أيدوا أيدوهم وناصروهم. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il dit que lorsque le Cheikh il mentionne ici, il dit que Allah Ta'ala a dit, n'as-tu pas vu le peuple qui a pris pour allié ceux qui, contre qui Allah est en colère. Ils ne sont pas, ils ne sont pas d'entre vous et ils ne sont pas des leurs. Et ils jurent sur le mensonge alors qu'ils savent. Le verset en question, le Cheikh il dit ici, le contexte parle de l'attitude ou du comportement des hypocrites, ceux qui sont des munafiqoun, qui montrent l'islam, c'est-à-dire qui laissent paraître que ce sont des musulmans, mais en eux-mêmes, dans leur cœur, ils cachent leur mécréance, ils cachent leur haine de l'islam. Parce que dans leur cœur, il y a une maladie. Et Allah subhanahu wa ta'ala fait accroître leur maladie, fait grandir leur maladie par-dessus la maladie qu'ils ont. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits dans plusieurs versets et il a mentionné certaines de leurs caractéristiques, certains de leurs signes. Et parmi ces caractéristiques-là et ces signes, c'est qu'ils prennent pour alliés les ennemis d'Allah, les kuffars. Et ils les supportent et ils les aident et ils les aiment et ils leur viennent en aide. Il leur donne, c'est-à-dire il les assiste contre les musulmans et il les aide contre les musulmans. Et donc la signification dans le verset lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit ila qawmin tawallaw ila alladhina tawallaw qawman tawallaw qawman, c'est-à-dire ils ont aidé, ils ont pris pour alliés dans le sens qu'ils ont aidé et ils ont essayé de prêter victoire ou donner victoire à ces Yahoud, à ce peuple. Donc, le Cheikh il dit ensuite, وفي سورة الحشر يقول تعالى في وصف هؤلاء المنافقين وكيفية مناصرتهم لكفرة أهل الكتاب ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم وهكذا وصف الله سبحانه وتعالى مناصرتهم لهم ثم قال ولا تطيع فيكم أحدا أبدا ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون والله يشهد إنهم لكاذبون فهم يتولونهم بقولهم فإنا لن نسلمكم ولئن قتلتم قاتلنا معكم ولا سوف ننصركم مع أنهم يدعون أنهم مؤمنون وهذا دليل على كذبهم في هذه الدعوة. Donc le Cheikh il explique, il dit dans sourate al-Hashr. Sourate al-Hashr, c'est l'Exode. Qu'est-ce que la sourate qu'on appelle l'Exode, c'est la sourate qui vient juste après al-Mujadala. Al-Mujadala, c'est la sourate 58. Et Al-Hashr, c'est la sourate 59. Donc, dans sourate 59, le verset 11, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie « N'as-tu pas vu les munafiqoun ?» N'as-tu pas vu les munafiqoun disant à leurs confrères qui ont mécru parmi les gens du livre ? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, dans ce verset-là, il appelle les gens du livre les confrères des munafiqoun. C'est comme si, en fait, les hypocrites sont des frères des kuffars. Les hypocrites, les chrétiens et les justes sont leurs frères. Tandis que les croyants, on sait que les croyants, leurs frères ne sont que les croyants. Mais eux, étant donné que ce n'est pas des croyants, c'est des hypocrites, eh bien leurs frères sont les gens du livre. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. N'as-tu pas vu les hypocrites disant à leurs confrères qui ont mécru parmi les gens du livre, vous avez été, si vous êtes chassés, nous partirons certes avec vous. Donc si vous êtes chassés par les musulmans, nous partirons certes avec vous. Ça c'est les hypocrites qui parlent aux chrétiens, aux juifs. Ils disent, si vous êtes chassés par les musulmans, nous partirons certes avec vous. Et nous n'obéirons jamais personne contre vous. Et si vous êtes attaqués, nous vous secourrons, certes. Et Allah atteste qu'en vérité, ils sont des menteurs. Allah atteste qu'ils sont des menteurs. Donc le cheikh, il explique ce verset-là. Hein? C'est-à-dire, c'est ça, quand les munafiqoun, c'est les kuffars qui se font passer pour des musulmans. C'est des gens qui détestent l'islam et les musulmans. Quand ils sont avec les musulmans, ils disent on est avec vous. Puis quand ils sont avec les kuffars, ils disent, pour de vrai, ils disent on est avec les kuffars, mais on fait semblant. Tu vois? Donc c'est des hypocrites. Naam. Donc, le cheikh, il dit, non, si tu dis à quelqu'un qu'il est un munafiq, c'est comme si tu lui disais qu'il était mécréant. Donc il ne faut pas traiter quelqu'un de munafiq, c'est parce que il faut pas traiter quelqu'un de munafiq, c'est la même chose que de pas traiter quelqu'un de kafir. Ok? Parce que le munafiq, c'est un kafir. D'accord? Non. Donc si tu dis quelqu'un a des caractéristiques du munafiq ou des caractéristiques des kuffars, ça ne veut pas dire nécessairement qu'il est kafir. Mais si tu dis lui est un kafir ou lui est un munafiq, ça c'est un takfir. Hein? Et ça, donc ça c'est très très dangereux. Hein? Il ne faut pas faire ça. Donc après le cheikh il dit wa fi surat al-hashr yaqul, hein, yaqul ta'ala. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit dans cette surat, dans la description des hypocrites, et comment ils essaient de prétendre qu'ils viennent en aide aux kuffars parmi les gens du livre. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 11 qu'on a lu tout à l'heure, qu'on vient juste de lire, n'as-tu pas vu ceux qui sont hypocrites ou qui sont des munafiqoun, qui ont commis le nifaq, et qui disent à leurs frères parmi ceux qui ont mécru, parmi les gens du livre, si vous êtes expulsés, nous sortirons avec vous. C'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala les décrit. Et il décrit leur aide, hein, et leur support pour les kuffars. Puis ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, hein, la suite du verset, et nous n'obéirons jamais personne contre vous. Et si vous êtes combattus, nous vous défendrons, hein, et nous vous secourrons. Et Allah témoigne que ce sont des menteurs. Donc le cheikh, il dit, donc eux, ils viennent en aide, ils supportent, et ils veulent défendre les kuffars en leur disant, on ne va pas vous dénoncer, et on ne va pas vous abandonner aux croyants, et on ne va pas vous combattre, au contraire, même si vous êtes combattu, on va combattre avec vous et on va vous défendre, hein? Alors qu'ils prétendent être des croyants et ils se disent être des musulmans, et ça c'est la preuve de leur mensonge, hein? Et que qu'est-ce qu'ils disent, c'est un mensonge lorsqu'ils prétendent être des croyants, puisque le croyant il n'agit pas comme ça, le croyant il ne dit pas ça au kuffar, on va vous défendre, puis on est avec vous, puis si vous êtes attaqué, on va vous défendre. Ça, c'est l'attitude des munafiqins d'agir comme ça. Et puis, combien il y en a aujourd'hui de musulmans, ou de gens qui se disent musulmans, mais qui agissent de la même manière que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit dans ce verset-là. C'est-à-dire, ils vont voir les juifs et les chrétiens, ou les athées, ou les laïcs, et les démocrates, et les communistes, et les socialistes, et les autres groupes de kuffars, et puis ils leur disent, on est avec vous, hein, on vous supporte, on va vous défendre contre les musulmans, hein, contre ceux qu'ils vont nommer comme étant des intégristes, comme étant des musulmans pratiquants qui, comme eux. Hein. Et combien il y en a qui disent, par exemple, ils disent aux kuffars, en venant dans les pays de kuffre, ils disent aux kuffars, nous on a quitté nos pays musulmans pour venir dans les pays de kuffre, parce que justement, on voulait s'enfuir des musulmans pratiquants. ou des musulmans qui aiment l'islam et qui pratiquent leur islam. Donc ils viennent chez les koufars, ils disent aux koufars, on est avec vous, on vous aime, on a quitté notre pays parce que justement on ne voulait pas l'islam, on ne voulait pas ces intégristes comme ils les appellent, alors que on parle bien entendu de la société des pays musulmans. Si dans les pays musulmans c'est vrai qu'il y en a des extrémistes, ou bien il y en a des groupes de bid'a ou de hizbiya qui font des choses qui sont contraires à l'islam et qui sont dans l'extrémisme pour de vrai, mais c'est pas parce que eux ils font ça que ça veut dire que qu'est-ce qu'ils font c'est l'islam, d'accord. Puis d'agir de cette façon-là avec les koufars, puis de leur parler de cette façon-là, ça donne, c'est comme si en réalité on était en train d'agir comme des traîtres. Si quelqu'un agit comme ça, c'est comme s'il agit comme un traître, hein. C'est ça. Donc si on condamne, par exemple, qu'est-ce que font les groupes de bid'ah et les hizbi, comme les ikhwan et les partis comme Al-Qaïda, ou qu'est-ce qui est arrivé à l'Algérie, le FIS, comment ils ont tué des gens, le FIS, Front Islamique du Salut, avec Ali Ben Hadj à l'époque, dans les années 90, comment ils ont fait couler le sang des gens, puis comment ils ont fait beaucoup de désordre, ou bien que ce soit les groupes de musulmans armés, Al-Qaïda, tous ces groupes-là, ces gens-là, par la suite, ils utilisent ça comme des excuses ou des prétextes pour critiquer l'islam et les musulmans, alors que l'islam est innocent. Les musulmans sont innocents de ces groupes-là et de ces tendances-là. Mais ça, c'est des groupes de... En fait, c'est des khawarij. Et à cause des khawarij, il y en a beaucoup de gens s'enfuient de l'islam à cause d'eux, parce qu'ils s'imaginent que c'est ça l'islam, alors que ça n'a rien à voir. Et même, il y a beaucoup de chrétiens en ce moment qui vont, même dans les pays musulmans, essayer de faire da'wah au christianisme, appeler les musulmans à devenir chrétiens, en utilisant comme exemple le comportement de ces groupes extrémistes-là et des groupes d'égarés et ces sectes comme les khawarij, et de dire aux gens, regardez, c'est ça l'islam, notre religion à nous, c'est la paix, c'est l'amour, on ne fait pas des choses comme ça. Hein? Et bien entendu, on sait très bien que le christianisme, il a pas les mains blanches. Si tu regardes l'histoire du christianisme, leurs mains sont remplies de sang à travers toute leur histoire. Non seulement qu'est-ce qu'ils ont fait à d'autres chrétiens comme eux, parmi eux, ou que ce soit qu'est-ce qu'ils ont fait à des juifs, ou qu'est-ce que les chrétiens ont fait aux musulmans ou à d'autres religions dans le monde à travers l'histoire. Que ce soit la colonisation, que ce soit l'esclavage, que ce soit les guerres de religion qu'il y a eu en Europe, les inquisitions, puis tous ces trucs-là, puis aussi du côté des juifs et autres. Donc tout ça, c'est pour dire que s'ils veulent utiliser comme exemple ou comme prétexte les mauvais comportements ou les mauvaises choses que les khawarij ont fait dans les pays musulmans à notre époque, comme prétexte pour critiquer l'islam et les musulmans, eh bien nous, on se désavoue de ce que ces gens-là ont fait. On dit ça, ce qu'ils ont fait, eux, ça n'a pas rapport avec l'islam. Et l'islam est innocent de ce que ces gens-là ont fait. Mais en même temps, si vous voulez jouer à ce jeu-là avec nous aussi, on est capable de le jouer. Et on est capable de vous sortir des dossiers sur le christianisme et sur qu'est-ce que les chrétiens ont fait, puis sur qu'est-ce que les juifs ont fait aussi dans leur histoire. Donc, essayez pas de jouer à la patte blanche, parce que ça marche pas, Yann. Hein? Ouais, non, c'est ça. Il y a des catégories de femmes maintenant parmi les juifs qui portent même le niqab et le djilbab comme les musulmanes. Ben, de toute façon, on sait que la religion des prophètes, c'est une seule religion. Et s'ils pratiquent quelque chose de bien, ça vient de l'islam, parce que tous les prophètes d'Allah étaient tous sur l'islam. Et donc le hijab, c'est certain que ça fait partie des choses qui sont ordonnées dans la religion d'Allah. Et c'était pas seulement quelque chose qui est venu avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais que c'était dans tous les enseignements des prophètes. Et même tu vois par exemple les chrétiens quand ils font même les images de la mère de Jésus, hein, Mariam, eh bien ils la font tout le temps avec une longue robe et un long voile, toujours habillé avec pudeur et respect. Donc eux ils ont dévié de cet exemple là aujourd'hui, parce que les femmes chrétiennes actuellement, tu les vois aller dans les églises le samedi, le dimanche, on dirait qu'elles sont dans une parade de mode. Elles sont habillées à la limite, on dirait qu'elles s'en vont faire la rue, Allah musta'an. Et non seulement ça, mais avec le tout ce qu'il y a de maquillage et de parfum et de parure et tout pour faire de la fitna en fait. Donc elles viennent pas en fait pour adorer Dieu, mais elles viennent plutôt juste pour faire se pavaner et faire la parade de mode. Hein? Nasallallahu al-afiya. Donc c'est pas ça ce que Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné aux femmes dans aucune des révélations des messagers. Donc pour revenir à qu'est-ce que le cheikh explique ici, il dit فإنا لن نسلمكم. En passant aussi, ça c'est un rappel aussi pour les femmes musulmanes, parce qu'on critique l'exemple de qu'est-ce que ces chrétiennes là ont fait, mais en même temps aussi c'est pour dire que les femmes musulmanes, elles ne doivent pas justement imiter ces chrétiennes là comment elles ont dévié, hein. Et même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit c'est quoi le hadith qui dit, il a dit فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَا فَإِنَّ أَوَّلُ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلِ كَانَتْ فِي النِّسَا. C'est-à-dire, craignez, faites attention à la dunya et faites attention aux femmes. Parce que la première épreuve ou la première fitna du peuple d'Israël, ça a été les femmes. Donc, c'est un rappel pour la umma du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit j'ai pas laissé une épreuve après moi ou une tentation plus grande après moi pour les hommes de ma umma que les femmes. Donc ça veut dire que les hommes musulmans, ils ont dans ce domaine là des avertissements de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport aux femmes. Et puis c'est pour dire aussi que elles doivent pas imiter les femmes koufars parmi les juifs et les chrétiens qui, justement, elles se sont exhibées, puis ont montré leur charme, puis ont commencé à marcher dans la rue sans aucune gêne ni pudeur, puis que le résultat de ça, c'est la corruption, puis le désordre, puis la perversité dans la société. C'est ça ce qu'on voit chez les koufars aujourd'hui, et qui commence à se propager même chez les musulmans à cause de ça. Donc, le cheikh, il dit ensuite. Non, un dernier point, c'est juste que parce que même il y a des femmes musulmanes actuellement qui non seulement ne portent pas le voile, mais le pire, c'est pas, ça c'est déjà qu'elles portent pas le voile, c'est un péché, mais il y a des femmes qui prétendent porter le voile, mais qui font plus de fitna dans la façon comment elles se voilent que celles qui ne portent pas du tout, parce que elles portent quelque chose qu'elles appellent voile ou hijab, qui n'a rien à voir avec le hijab, puis qui n'a rien à voir avec les règles de l'islam par rapport à ce sujet-là. Donc elles vont mettre des foulards qui sont décorés, qui sont comme un truc de mode, on dirait qu'elles se prennent pour des vedettes de cinéma, elles se voilent d'une façon, c'est de la mode, c'est pas de la religion, puis elles vont, avec ça, elles vont mettre du maquillage dans leurs yeux, dans leur visage, et elles vont porter des vêtements à la mode avec ça, qui montrent les formes de leur corps. Puis ça, ça devient comme si elles sont en train de faire une risée du hijab, puis elles sont en train en fait de ridiculiser la religion et de se ridiculiser elles-mêmes. Parce que en même temps, tu dis, le but du hijab, c'est de couvrir les parures et de pas montrer la beauté, de cacher la beauté pour qu'elle soit réservée uniquement à ceux qui sont qui ont le droit de le voir, comme le mari, et de montrer certaines parties de des vêtements à des gens de la famille, des proches, qu'est-ce qu'ils ont le droit de voir de ça c'est correct. Mais si la femme elle commence à porter un foulard sur ses cheveux, puis que par la suite, en bas, elle porte n'importe quoi. Hein? Des femmes avec un foulard sur les cheveux, puis des leggings. Puis elles marchent dans la rue avec ça. Aussi bien de marcher nu, hein? Avec un foulard, puis ça veut dire que ça ne dérange pas. Hein? Donc quand ça devient comme ça, ça veut dire que ça devient l'exemple des juifs et des chrétiens. Que les musulmans ont suivi l'exemple des juifs et des chrétiens dans leur déviation. Donc ça rentre dans l'exemple et on va en parler de ça plus tard. Il y a des exemples clairs à ce sujet-là, Inch'Allah. Donc revenons à ce qu'on était en train d'expliquer. Donc il dit le cheikh, قال تعالى ألم تر إلى الذين ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم من هم الذين غضب الله عليهم إنهم اليهود الذين كانوا في المدينة من بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة فهم قوم غضب الله عليهم فدل على أن اليهود مغضوب عليهم وأن المراد بقوله غير المغضوب عليهم هم اليهود ومن صار في ركابهم. Donc le cheikh il dit, le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, n'as-tu pas vu ceux qui ont pris pour alliés un peuple contre lequel Allah est en colère? Le cheikh il pose la question, il dit, qui sont ceux contre qui Allah est en colère? Il dit, ce sont al-Yahoud, hein, ce sont les juifs, ceux qui étaient à Médine à l'époque, et à l'époque il y avait 3 tribus parmi les juifs à Médine, qui habitaient à Médine parmi les juifs. La première c'était Bani Qaynuqa, ok, Bani Qaynuqa. Il y avait la deuxième tribu qui s'appelait Bani Nadir, et la troisième qui s'appelait Bani Qurayza. Ça c'était 3 tribus juives qui vivaient à Médine, qui étaient installées à Médine. Et ce sont eux, il y en a parmi les juifs contre qui Allah était en colère. Ça ne veut pas dire que c'est seulement ces tribus-là, mais c'est une caractéristique chez les juifs de façon générale que Allah subhanahu wa ta'ala est en colère contre eux parce qu'ils ont la connaissance mais ils contredisent, hein, dans l'application, ils contredisent la révélation. Et qu'est-ce qu'on veut dire par غير المغضوب عليهم? Ce sont les juifs. Donc c'est la même chose dans ce verset-là. قَوْمَنْ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ puis غَيْرِ الْمَغْدُوبِ عَلَيْهِمْ, on parle des mêmes, du même groupe, c'est-à-dire Al-Yahoud et ceux qui sont pareils comme eux et qui les suivent dans cet exemple-là, c'est-à-dire qui ont de la connaissance mais qui ne l'appliquent pas.
وَهُمْ لَمَّا تَعَرَّضُوا لِغَضَبِ اللَّهِ وَلَعْنَتِهِ ضَرَبَهُمُ اللَّهُ بِالذِّلَّةِ وَالْمَسْكَنَةِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس فاليهود لا يظهرون إلا بأمرين إما بإظهار الله لهم لأجل الابتلاء والامتحان وإما بنصر من الناس يؤيدونهم ويدعمونهم والواقع هو الحاصل الآن فإن اليهود ما ظهروا إلا على أكتاف النصارى الذين يسمون أنفسهم بالمسيحيين فهذا مصداق قوله تعالى ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله ولكن ظهورهم لا يستمر بل يضمحل وقد سلط الله عليهم على مدى التاريخ الجبابرة ومصداق ذلك قول الله عز وجل إذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. Donc le cheikh il explique, hein? Il dit ces juifs ils se sont mis sous la colère d'Allah et sa malédiction. Et Allah les a frappés par l'humiliation et yani, la pauvreté. Hein? Et ça, c'est le verset qu'il mentionne, le cheikh, c'est le verset 112 dans Surat Al-Imran qui mentionne ce fait-là. Hein? Il les a frappés d'avilissement. Donc il mentionne le verset 112 dans surat Ali Imran. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: où qu'ils se trouvent, ils sont frappés d'avilissement. Ils sont frappés d'avilissement, excepté ou à moins d'un secours qui vient d'Allah ou d'un pacte conclu avec les hommes. Et ils ont encouru la colère d'Allah et les voilà frappés de malheur pour n'avoir pas cru au signe d'Allah et assassiné injustement les prophètes et pour avoir désobéi et transgressé. D'accord ? Donc, le cheikh Al-Fawzan, il explique ce verset-là. Il dit que les juifs, ils ne vont pas avoir de victoire excepté de deux façons. Soit que Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner une victoire sur la terre dans le but de les éprouver, de les tester, pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire, ou bien qu'il va leur donner une victoire par les gens qui vont les aider et les supporter. Et c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Parce que les juifs dans le monde sont un petit nombre. Ils ne sont pas nombreux, les juifs dans le monde. C'est un petit peuple. Parmi les peuples, c'est un peuple très, très peu nombreux. Mais ils sont aidés et ils n'ont pas eu de victoire, excepté sur le dos et sur les épaules des chrétiens. Ceux qui s'appellent aujourd'hui les chrétiens. Parce que la réalité, c'est ça. Les juifs tout seuls, ils ne peuvent rien faire. Ils ont besoin des chrétiens. Ils utilisent toujours, à travers l'histoire, ils utilisent les chrétiens. Et même que, c'est pour ça que donc Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne dans le verset 112 qu'on vient de mentionner, il dit où ils se trouvent, ils sont frappés d'avilissement à moins d'un secours providentiel ou d'un pacte conclu avec les hommes. Ok, donc c'est pour dire que c'est pour dire que en fait ils sont soit aidés d'Allah ou soit aidés par les hommes. Et quand Allah les aide, c'est pour les tester et pour les éprouver, pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Et sinon, ils sont aidés par des hommes, d'autres peuples qui les aident, comme les chrétiens aujourd'hui. Et il dit, ils ont encouru une colère d'Allah. Ils ont encouru la colère d'Allah. Et non. Donc, ça c'est la suite du verset. Après, il dit, mais leur victoire qu'ils ont ne va pas durer. Elle va disparaître, cette victoire qu'ils ont, elle va pas durer éternellement. Elle va rester un certain temps, puis après elle cesse, elle disparaît. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala va toujours placer contre eux des tyrans à travers l'histoire, des dictateurs ou des tyrans qui viennent pour confirmer ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à ce sujet-là dans le verset 167. Dans Surat Al-A'raf. Donc, dans Surat Al-A'raf, le verset 167, Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit comment, à chaque fois qu'ils sortent, que Allah subhanahu wa ta'ala fait qu'il y ait un homme ou un dirigeant qui vient puis qui les écrase, et qui leur fait subir des châtiments. Comme dans le verset 167 dans Surat Al-A'raf, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, en arabe c'est إِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. C'est-à-dire, et lorsque ton Seigneur annonça qu'il enverra contre eux, quelqu'un qui leur imposera le pire châtiment jusqu'au jour de la résurrection. Donc ça c'est pour dire que à chaque fois dans l'histoire, il y a toujours un tyran qui vient pour les châtier, les juifs. Et c'est ça ce qu'on a vu. C'est pas juste comme eux ils disent maintenant aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé en Allemagne dans la Deuxième Guerre mondiale avec Hitler qui les a châtiés. Non, même avant ça, dans l'histoire, il y a eu toutes sortes d'épreuves contre ce peuple-là, de cette façon. Depuis, regardez en Égypte, avec Moussa, qu'est-ce qui est arrivé. Ils étaient pris en esclavage là-bas. Et puis, il y a eu d'autres moments aussi dans leur histoire. Allah subhanahu wa ta'ala a mis contre eux toutes sortes d'épreuves, il y en a de cette façon. Il y avait comme par exemple en Perse, hein, dans l'Empire Perse, il y avait un empereur qui s'appelait, comment s'appelle lui, j'ai toujours de la difficulté à prononcer son nom, Bakhtanassur al-Majusi. C'était un empereur perse qui a envahi la Palestine à l'époque et qui a pris tout le peuple d'Israël, puis qui les a amenés en esclavage. Yani, Bakhtanassur il s'appelait. Lorsqu'il devint roi, il ne manque ni d'expérience ni d'ambition. Aussitôt sa prise de pouvoir officialisée, il retourne sur les bords de la Méditerranée où le souverain d'Ascalon s'est révolté et où il veut aussi affirmer sa domination sur les souverains des royaumes de Phénicie et également sur le roi de Juda. Mais les Égyptiens sont toujours présents dans la région pour soutenir les révoltes de ces derniers. En 601, le choc entre les opposants babyloniens d'un côté et les Égyptiens et alliés de l'autre a lieu. Et Nabuchodonosor essuie une défaite et doit se retirer dans ses forteresses de Syrie. Il décide d'attaquer en Arabie l'année suivante. Puis il retourne au Levant pour recevoir les tribus des souverains de la région. Celui de Judée, Joachim, refuse de payer. Il subit la répression. Sa capitale, Jérusalem, est assiégée, puis prise en 597. Il perd la vie. Et son fils Joachim et les autres notables et lettrés du royaume sont déportés à Babylone pour mieux contrôler la région. Nabuchodonosor bâtit un fort à Ribla, au Liban, mais cela n'empêche pas les rois locaux de continuer à se révolter et d'être les principaux soucis du souverain. Une révolte a lieu en Babylonie même, en 593, et il est vite réprimé avec violence. En 589 avant Jésus-Christ, les Égyptiens s'emparent de Gaza et assiègent Tyr et Sidon. Puis ils forment une coalition avec les Phéniciens à laquelle se rallient les Sédécias, le nouveau roi de Juda en poste aux ordres de Nabuchodonosor II. Celui-ci vient donc à Ribla, d'où il prépare sa contre-attaque. Il assiège Jérusalem en 588 et après environ 2 ans de siège, la ville tombe. Les fils de Sédécie sont tués et mutilés. Ok, donc Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé contre eux le Majusi, hein, le Perse. Al-Majusi, c'est-à-dire ceux qui adorent le feu, qui s'appelait Nabuchodonosor, et comme yani, ça a été mentionné à leur sujet au début de Sourate Al-Isra. Hein, il dit فقد بعث الله عليهم بختنصر المجوسي كما قصه الله علينا في أول سورة الإسراء فدمرهم تدميرا وخرب بلادهم ثم ظهر عليهم فرعون في مصر فسامهم سوء العذاب وفي ذلك قوله تعالى يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم ثم إنهم بقوا في العذاب المهين تحت سلطة فرعون حتى بعث موسى عليهم السلام حتى بعث موسى عليه السلام فأنقذهم الله به ولكن اليهود عادوا لما نهوا عنه وحرفوا وبدلوا فعادت عليهم اللعنة والغضب. Donc le cheikh il explique, il dit puis Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé contre eux comme exemple de ça Banu Bakhtanassur al-Majusi, hein, c'est-à-dire Nabuchodonosor II, hein, celui qui est connu. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a mentionné son histoire au début de Sourate al-Isra. Donc, dans le début de Sourate al-Isra dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne cet exemple-là. c'est lorsqu'il dit les premiers versets.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى مسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفورا أكثر نفيرا وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Donc qu'est-ce que ça veut dire ces versets-là?
Les versets, à partir du verset 2, et nous avions donné à Moïse le livre dont nous avions fait un guide pour les enfants d'Israël. Ne prenez pas de protecteur en dehors de moi. Le verset 3, ô vous, les descendants de ceux que nous avons transportés dans l'arche avec Noé, celui-ci était vraiment un serviteur fort reconnaissant. Le verset 4, nous avions décrété pour les enfants d'Israël et annoncé dans le livre, par deux fois vous sèmerez la corruption sur terre et vous allez transgresser d'une façon excessive. Le verset 5, lorsque vint l'accomplissement de la première de ces deux prédictions, nous envoyâmes contre vous certains de nos serviteurs doués d'une force terrible qui pénétrèrent à l'intérieur des demeures et la prédiction fut accomplie. Et le verset 6, ensuite nous vous donnâmes la revanche sur eux et nous vous renforçâmes en bien et en enfants et nous vous fîmes un peuple plus nombreux. Et le verset 7, si vous faites le bien, vous faites le bien à vous-même, et si vous faites le mal, vous faites le mal à vous-même aussi. Puis, quand vient la dernière prédiction, ce fut pour qu'ils affligent vos visages et entrent dans la mosquée comme ils y étaient entrés la première fois, et pour qu'ils détruisent complètement ce dont ils se sont emparés. C'est pour dire, comme le cheikh il a dit, ça c'est l'exemple qui avait été mentionné de la première prédiction, c'était l'exemple de Nabuchadonosor. Bon, après, qu'est-ce qu'il dit? C'est ça. Au début de ce, donc, il les a frappés, il les a détruits, Nabuchadonosor, il est rentré dans leur pays, il a détruit leur pays, il a pris le dessus sur eux. Ensuite, Pharaon, en Égypte, également a fait la même chose. Il a pris le dessus sur eux et il les a châtiés d'une façon terrible. Même que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit dans le verset 141 dans Surat Al-A'raf, il dit, il tue vos fils et il laisse vos filles vivre. C'est-à-dire, il laisse vivantes les filles, mais il tue tous les fils. Quand un peuple, on commence à tuer toutes les filles puis qu'on laisse seulement les filles, eh bien, ça veut dire qu'ils ne peuvent rien faire par la suite. En général, les femmes toutes seules, elles ne peuvent pas se défendre, elles ne peuvent pas rien faire. Ouais, peut-être qu'ils disent ça pour ça vraiment. Allahu a'lam. Après, il dit, puis ensuite, ils sont restés encore dans le châtiment humiliant sous l'autorité de Pharaon, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a envoyé Moïse pour les sauver. Allah les a sauvés par l'exemple de Moïse. Il fait partie de Bani Israël. Il fait partie des enfants d'Israël. Et allez, le cheikh, il dit, les juifs, par la suite, même après quand Allah les a sauvés par Moïse, ils sont retournés à ce qu'on leur avait interdit. sont retournés à faire ce qu'on leur avait interdit de faire et ils ont déformé la révélation et changé l'ordre qu'on leur avait donné. Et donc, la malédiction et la colère d'Allah est retombée contre eux encore une fois. Puis, le cheikh dit ensuite, « Thumma inna Allah sallata alayhim akhiran al-Alman bi qiyadati Hitler alladhi sana'a bihim ma lan yansawhu fi hayatihim. » وسينزل الله بهم بأسه في آخر الزمان على يد المسلمين كما أخبر بذلك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بقوله لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلون المسلمين حتى يختبئ اليهود من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. Donc qu'est-ce qu'il dit le cheikh ensuite? Il dit, puis Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé contre eux dernièrement les Allemands dirigés par Hitler et il a fait avec eux ce qu'ils ne vont jamais oublier dans leur vie, hein. Et Allah subhanahu wa ta'ala va faire tomber sur eux encore une fois à la fin des temps son châtiment sur eux par la main des musulmans comme il l'a annoncé et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé dans sa parole quand il a dit dans le hadith que l'heure du jugement ne va pas venir tant que les musulmans n'ont pas combattu les juifs et qu'ils vont combattre les musulmans jusqu'à donc les musulmans vont les combattre. Et ils vont se cacher, le juif va se cacher derrière une pierre et un arbre, et la pierre et l'arbre vont parler. La pierre et l'arbre vont parler. Il va dire, ô musulmans, non, il va dire, ô serviteurs d'Allah, ça c'est un juif derrière moi, viens le tuer. Donc l'arbre et la pierre vont dire ça, hein, vont parler. Non, ça c'est un hadith. Hein? La pierre et l'arbre va parler, va dire ô musulmans, derrière moi il y a un juif, viens le tuer, excepté l'arbre qu'on appelle Al-Gharqad, parce que ça c'est un arbre des juifs. C'est un arbre qui appartient aux juifs. Et ça c'est rapporté par l'imam muslim dans son sahih. C'est le hadith 2922. Donc c'est un hadith authentique qui est rapporté par l'imam muslim selon Abu Huraira. Selon Abu Huraira. Donc c'est pour dire que tout ce qui se passe aux juifs comme ça dans leur histoire, c'est un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala pour eux. Et même, ça c'est quelque chose que, bien entendu, si on dit que c'est un châtiment d'Allah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un résultat de leurs actions. C'est un résultat de ce qu'ils ont, fait avec leurs mains. Hein, parce qu'il y a... quand quelqu'un fait une injustice, il y a toujours une répercussion par la suite. Il y a toujours une conséquence. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Même, on a demandé même à des rabbins, qu'est-ce qui est arrivé? Des rabbins juifs, on a demandé qu'est-ce qui est arrivé aux juifs en Europe durant la Deuxième Guerre mondiale. Est-ce que ça c'était un châtiment de Dieu? Ils ont dit oui, c'est un châtiment de Dieu pour nous les juifs, parce qu'on avait désobéi aux ordres de Dieu, parce qu'ils ont dit les juifs en Europe ils commençaient à vivre comme les autres peuples, comme les chrétiens, commençaient à devenir comme les chrétiens, commençaient à quitter toutes les règles de leur religion, comme ils disent, même si leur religion est fausse. Mais c'est juste pour dire qu'ils commençaient à trahir leur propre religion, comme d'habitude. Mais là, ça devenait plus. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont dit, à cause de ça, Dieu les a châtiés. Et ça, c'est pas des musulmans qui disent ça. Ça, c'est des juifs même, des rabbins juifs qui disent ça. Mais l'affaire, qu'est-ce qui est incroyable, c'est que j'ai lu certains livres, parce que j'ai dû étudier ça à l'école. On a lu les livres comme... Le Anne Frank, c'est comme le journal de Anne Frank, C'est une jeune fille qui était en Hollande. Puis, à un moment donné, elle a subi l'occupation des Juifs et tout. Puis, ils se sont cachés dans un endroit là pendant la guerre. Ils se sont cachés un certain temps. Puis, presque à la fin de la guerre, ils se sont fait attraper par les Juifs. Ils les ont amenés dans les camps. Puis, ils sont morts là-bas. Mais il y en a qui ont survécu. Hein, le père, il a survécu. Puis, on a lu aussi d'autres livres, d'autres histoires aussi à l'école. On avait des cours là-dessus. On avait une prof juive, puis elle nous a fait lire comme plein de trucs sur l'Holocauste. Donc, là, quand on a lu ça, qu'est-ce qui m'a marqué, qu'est-ce qui m'a surpris, c'est que la façon comment c'était décrit, c'est que il disait, comme la petite fille a dit, on était dans des écoles, où on était dans des écoles, comme tu sais, les écoles privées. C'est avec les Hollandais, avec les autres peuples. T'sais, on n'était pas avec des Juifs, on était dans des écoles hollandaises, on étudiait avec eux et tout et tout. On allait dans les restaurants, on allait dans les endroits publics. Puis là, quand les Allemands sont venus, là tout d'un coup ils ont dit non, vous êtes des Juifs, vous ne pouvez pas venir dans des écoles qui sont pas des, vous pouvez juste aller dans des écoles juives. Vous ne pouvez pas aller dans des écoles chrétiennes. Après, ils ont dit, les Allemands ont dit, vous ne pouvez pas aller dans les restaurants. Vous ne pouvez pas aller dans les musées, ou les théâtres, ou les cinémas. Il faut aller juste avec les Juifs. Les Allemands qui ont dit ça. Là, eux, ils trouvaient ça, comme ils n'étaient pas contents de ça, ils ont dit, ah, mais maintenant, on peut juste aller dans les affaires des Juifs. Pourquoi on ne peut pas aller dans les affaires des autres, hein? On nous a empêchés de pouvoir se mélanger juste à cause qu'on est juif. Hein? On fait du racisme. Ils ont dit ça, c'est du racisme. De la discrimination. Bon. Après, maintenant, l'Holocauste est fini. La guerre est finie. Les Allemands sont écrasés. Tout ça, c'est fini maintenant. Là, maintenant, ils ont maintenant la terre de la Palestine qu'ils ont occupée. Où ils sont en train d'appliquer tout ce qu'ils faisaient, tout ce que les Allemands leur faisaient, ils sont en train de le faire maintenant aux musulmans. Mais non seulement ça, maintenant dans les pays comme les pays chrétiens, comme ici, comme ils sont au Canada, aux États-Unis, ailleurs, tu les vois, ils font leur propre restaurant, leurs propres affaires, leur propre business. Hein, ils veulent pas se mélanger avec ceux qui sont les orthodoxes là. Ils veulent pas se mélanger du tout avec les chrétiens. C'est la preuve que, bon, même s'il y en a une catégorie d'entre eux qui se mélangent, la majorité d'entre eux, oui, sont intégrés complètement, ils se mélangent, même si au fond, ils savent qu'ils ne sont pas des chrétiens ou des autres. T'sais. Mais il y en a une catégorie, ils ne veulent pas se mélanger. Donc c'est drôle comment avant, ils voulaient tout faire pour se mélanger, puis on les a forcés à ne pas se mélanger, alors là ils n'étaient pas contents. Maintenant, il n'y a personne qui les force. Et malgré tout, ils restent séparés, ils ne veulent pas se mélanger. Ils ont leurs propres écoles, ils ont leur propre communauté, hein, séparés des autres. Bon, c'est pas pour dire comme si je veux dire, c'est normal qu'ils fassent ça, mais je veux dire, d'un côté en même temps, c'est pour dire que. Qu'est-ce, ceux qui, pendant la guerre, ont subi toutes ces affaires-là, souvent c'était des Juifs qui voulaient justement pas nécessairement suivre toutes les règles de la religion juive. En tout cas, Lamstein. Qu'est-ce qu'il dit ensuite, le Cheikh? Il dit, donc on va lire maintenant un autre passage, le passage numéro 27. قوله تعالى وباء بغضب من الله. Ça c'est la suite du verset 112 dans sourate Al Imran qu'on a expliqué. وباء بغضب من الله وهذا بيان أن اليهود مغضوب عليهم. Donc à la suite du verset qu'on a lu tout à l'heure, on dit que Allah subhanahu wa ta'ala disait dans sourate Al Imran le verset 112, ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله. Donc c'est dans le verset. Le cheikh il dit Ça, c'est pour expliquer que les Juifs ont la colère d'Allah sur eux. Ok? Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique ça. Il dit, وَقَوْلُهُ تَعَلَىٰ وَبَاءُ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ يَعْنِي رَجَعُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَكُلُّ هَلِهِ الْآيَاتِ تَتَحَدَّثُ عَنْ غَضَبِ اللَّهِ عَلَى الْيَهُودِ لِمَاذَا لِأَنَّهُمْ عَصَوُوا اللَّهَ عَلَى بَصِيرَةٍ وَعِلْمٍ وَلَقَدْ وَصَفَ سُبْحَانَهُ حَالَهُمْ هَذَا بِقَوْلِهِ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا كَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ لِلْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ إِنَّهُ سيبعث نبي في آخر الزمان نقتلكم معه قتل عاد وإرم فلما بعث محمد صلى الله عليه وسلم كفروا به فقال سبحانه وتعالى يصف فعلهم الشنيع وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين وقال تعالى فباءوا بغضب من الله رجعوا بغضبين والعياذ بالله لماذا لأنهم بدلوا وغيروا وعصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغضب الله عليهم وقد تكرر الغضب عليهم في آيات كثيرة من كتاب الله وهو يؤيد أنهم هم المغضوب عليهم المذكورون في سورة الفاتحة ويدخل معهم كل من لا يعمل بعلمه أعوذ بالله. Donc le Cheikh il dit, donc ils sont revenus avec une colère d'Allah, ils sont revenus encore une fois avec une colère d'Allah contre eux. C'est ça que ça signifie le verset. Et donc, tous ces versets-là dans le Coran qui mentionnent la colère d'Allah contre les Juifs. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala répète tout le temps ces versets-là? Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à Allah avec connaissance et avec science. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a décrit leur situation et leur état, il a dit par exemple, comme dans le verset 89, dans Surat Al-Baqarah, hein, il dit et quand leur vint de la part d'Allah un livre confirmant celui qu'ils avaient déjà, alors qu'auparavant ils cherchaient la suprématie sur les mécréants, c'est-à-dire sur les Arabes mécréants. Et quand donc leur vint cela même qu'ils reconnaissaient, ils refusèrent d'y croire. Que la malédiction soit sur les mécréants. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset-là? Le verset 89, ça signifie que avant l'islam, les juifs, ils disaient aux tribus des Arabes qui étaient là-bas à Médine, Al-Aws et Al-Khazraj, c'est-à-dire les Ansar. Les Ansar étaient divisés en deux tribus. La tribu de Aws et la tribu de Khazraj. Ces deux tribus qui vivaient à Médine. Quand ils sont devenus musulmans, on les a appelés les Ansar. Ils sont devenus comme une seule tribu, hein, parce qu'ils sont devenus des croyants. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? Ils disaient aux Juifs, les Juifs disaient aux Arabes, à la fin des temps, on va vous combattre, et il y aura un prophète qui va venir. Et on va vous combattre avec eux, et on va vous exterminer. Quand le prophète en question est venu et qu'ils ont vu que c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il n'était parmi les Arabes et qu'il ne faisait pas partie des Juifs, ils ont refusé de croire en lui. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala a décrit leurs mauvaises actions et leurs mauvais comportements, hein, leurs actions laides, en disant qu'est-ce qui est mentionné dans le verset 89. C'est-à-dire, et quand leur vint d'Allah un livre qui confirme ce qu'ils avaient déjà avec eux, alors qu'auparavant ils cherchaient la suprématie sur les idolâtres, sur les mouchriquines des Arabes, ils leur disaient on va avoir un prophète qui va venir, on va vous exterminer avec lui. Et quand le prophète en question il est venu et que c'était quelque chose qu'ils reconnaissaient, ils savaient que c'était vrai, mais ils ont refusé d'y croire, hein, par orgueil, par fierté. parce que c'était pas un hébreu ou c'était pas un israélien, un fils d'Israël, alors ils ont refusé de croire. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit que la malédiction d'Allah soit sur les kafirines, c'est-à-dire les mécréants. Donc qu'est-ce qu'il dit ensuite? Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le verset 112 dans sourate Al-Imran, donc ils sont revenus avec une colère d'Allah. C'est-à-dire qu'après, au lieu d'avoir une seule colère, ils ont eu deux colères sur eux de la part d'Allah. Pourquoi? Wal-'iyadhu billah, que Allah nous préserve. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé la religion, ils ont falsifié la religion et ils ont désobéi au messager d'Allah. Hein? Et Allah donc a été en colère après eux et il a répété sa colère contre eux encore une fois dans plusieurs versets dans le livre d'Allah. Et ça vient confirmer que ce sont eux, le peuple qui ont encouru la colère d'Allah et qui sont mentionnés dans sourate Al-Fatiha. غير المغضوب عليهم ويدخل معهم كل من لا يعمل بعلمه. Et tous ceux qui n'appliquent pas la science qu'ils ont ou la connaissance qu'ils ont de la religion, ils rentrent avec eux dans cette description là. Après, le cheikh il mentionne le passage, on explique le passage numéro 28. Il dit, قال تعالى في النصارى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة إلى قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وهذا خطاب للنصارى دل كما دل عليه السياق. Donc maintenant il a parlé des juifs, maintenant il va parler des chrétiens. Et il mentionne les versets de 73 à 77 dans Sourate Al-Ma'idah. Donc 73 à 77 dans Sourate Al-Ma'idah. Donc, il mentionne les versets suivants. Le verset 73, ça dit, ce sont certes des mécréants, ceux qui disent, en vérité, Allah est le troisième de trois, comme les chrétiens qui croient à la Trinité. Ils disent Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, les trois ça fait un seul Dieu. Ça c'est la Trinité, la croyance en la Trinité. Donc ça c'est du kufr. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce sont certes des gens qui ont mécru, qui sont devenus kuffars, ceux qui disent en vérité Allah est le troisième de trois. Alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Et s'ils ne cessent pas de dire cette parole, eh bien certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Ensuite, ça c'est le verset 73. Le verset 74, ne vont-ils pas se repentir à Allah et implorer son pardon, car Allah est pardonneur et miséricordieux. 75, le Messie, fils de Marie, n'est qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui, et sa mère était une véridique, et tous deux consommaient de la nourriture. Vois comme nous leur exposons les preuves et puis vois comme ils se détournent. 76 dit, adorez-vous au lieu d'Allah ce qui n'a le pouvoir de vous faire ni le mal ni le bien, or c'est Allah qui est l'audient et l'omniscient. Et 77, dit Mohammed aux gens du livre, n'exagérez pas en votre religion s'opposant à la vérité. Ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés avant cela, qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés du chemin droit. Donc ça c'est les versets 73 à 77. Et ça c'est un discours qui est adressé aux chrétiens, hein, comme c'est indiqué par le contexte. Cheikh Al-Fawzan il explique ça maintenant. Il dit « Amman nasara faqad sarraha kitabullahi bidalalihim » Donc, les chrétiens, Allah a dit explicitement à leur sujet qu'ils sont des égarés, qu'ils sont dans un égarement. Après, il dit وَالضَّالُ هُوَ الَّذِي يَعْمَلُ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَيَتَّبِعُ هَوَاهُ يَعْمَلُ بِالْبِدْعِ وَالْمُحْدَثَاتِ الَّتِي لَمْ يَشْرَعْهَا اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
فهم عبدوا الله على جهل واليهود عملوا ولكنهم عطلوا الأحكام وحادوا عن الصراط كما قال سبحانه وتعالى يصفهم يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. C'est-à-dire que celui qu'on appelle Ad-Dal, quand on dit Ad-Dallun, Ad-Dallun ou Ad-Dallin, ça c'est le pluriel. Ça c'est le pluriel. Comme on dit Wala Ad-Dallin dans Surat Al-Fatiha, ça c'est le pluriel. Ad-Dallun ou Ad-Dallin, ça c'est le pluriel. Le singulier c'est Ad-Dall. Donc quand tu dis un individu qui est égaré, tu dis Hadha Rajulun Dal. Dal. Hein? C'est-à-dire un égaré. Et qu'est-ce que ça veut dire? Quand on dit quelqu'un qui est dal, ça veut dire c'est quelqu'un qui agit sans science et qui suit sa passion. Hein? Il applique des innovations et des choses inventées que Allah n'a pas légiféré dans la religion. Donc, c'est comme quand, par exemple, ils ont adoré Allah avec ignorance. Donc, les Juifs, eux, ils ont de la science, mais ils ont annulé les règles d'Allah. Hein? Et ils se sont détournés du droit chemin, comme Allah subhanahu wa ta'ala les a décrits dans le Coran, lorsqu'il dit par exemple aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion en dépassant la vérité ou en autre que dans ce qui est la vérité, et ne suivez pas les passions des peuples d'avant qui se sont égarés avant vous et qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés du droit chemin, de la voie qui est droite. Donc la signification de ça, le cheikh il dit, وَالْمَعْنَى لَا تَتَجَاوَزُ الْحَقِّ فِي اتِّبَاعِ الْحَقِّ وَلَا تَطَرَوْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَنْ أَمَرْتُمْ بِتَعْظِيمِهِ فَتُبَالِغُوا فِيهِ حَتَّى تُخْرِجُوهُ مِنْ حَيْزِ النُّبُوَّةِ إِلَى مَقَامِ الْإِلَهِيَّةِ كَمَا صَنَعْتُمْ فِي الْمَسِيحِ وَهُوَ نَبِيٌّ فجعلتموه إلها دون الله والسبب اقتداؤكم بشيوخكم الذين قد ضلوا من قبلكم وخرجوا عن طريق الاستقامة والاعتدال إلى طريق الغواية والضلال. Donc le cheikh il dit la signification de ce verset qu'on a lu, c'est-à-dire ne dépassez pas la vérité. Ne transgressez pas la limite de la vérité dans la façon que vous suivez la vérité et n'exagérez pas au sujet de ceux qu'on vous a ordonné de respecter en exagérant à leur sujet et de les faire sortir, en les faisant sortir des limites de la prophétie vers la divinité. C'est-à-dire un prophète, vous faites de lui un dieu comme vous avez fait avec Jésus, hein, le Messie, qui est un prophète, et vous en avez fait une divinité en dehors d'Allah que vous adorez, au lieu d'adorer Allah, ou que vous adorez avec Allah. Donc ça c'est du shirk, hein? Et la raison de ça, la raison de cet extrémisme-là et de cette exagération-là, c'est que vous avez suivi, hein, aveuglément, ceux qui se sont égarés avant vous, et vous êtes sortis du chemin de la droiture, et de la modération vers le chemin de la transgression et de l'égarement. Et il dit le cheikh wa qala subhanahu fi bayan dhalika wa qalat al yahud uzair ibn Allah wa qalat al nasara al masih ibn Allah dhalika qawluhum bi afwahihim يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Donc ça c'est le verset dans le surat Tawbah, le verset 30 et 31, que le cheikh a cité ici, le verset 30 et 31 qui explique l'exagération des gens du livre par rapport à leur religion.
Et dans ces deux versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit, les Juifs ont dit, et les Juifs disent, 30 et 31, en surat At-Tawbah. Les Juifs disent, Uzair est le fils d'Allah. Et les chrétiens disent, le Christ, c'est-à-dire le Messie, est le fils d'Allah. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils imitent le dire des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse, comment s'écartent-ils de la vérité? Ils ont pris leur rabbin et leur moine, ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur avait commandé que d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part lui, gloire à lui, il est au-dessus de ce qu'il lui associe. C'est-à-dire, les Juifs disent que Uzair est le fils d'Allah, et les chrétiens disent que Jésus est le fils d'Allah, le Christ. Telle est leur parole, avec leur bouche, ils imitent les mécréants qu'ils ont mécru avant eux, car là les anéantissent. Ils ont pris leur rabbin et leur moine, ainsi que Jésus, le fils de Marie, comme des seigneurs en dehors d'Allah. Donc c'est ça leur égarement, c'est ça, c'est des exemples de leurs exagérations. Le Cheikh, ensuite, il cite, Cheikh Ibn Taymiyyah, il cite un autre verset. Il dit, ça c'est le passage numéro 29, il dit, ولهذا نهاهم عن الغلو وهو مجاوزة الحد كما نهاهم عنه في قوله يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a interdit l'exagération et l'extrémisme et de dépasser la limite aux gens du livre, hein? Et Allah leur a interdit ça dans le verset 171 dans surat An-Nisa. Dans surat An-Nisa, le verset 171, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: ô les gens du livre, c'est-à-dire les chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites d'Allah que la vérité. Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un messager d'Allah. Sa parole, qu'il a envoyée à Marie, est un souffle de vie venant de lui, hein, une âme venant de lui. Croyez donc en Allah et en ses messagers, et ne dites pas trois, hein, dites pas trois en un, cessez. Ce sera meilleur pour vous. Allah n'est qu'un Dieu unique. Il est trop glorieux pour avoir un enfant. C'est à lui qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah suffit comme protecteur. Donc ça c'est le verset au complet que j'ai lu. Lui, Cheikh Ibn Taymiyyah, il a lu jusqu'à la parole Al-Qaha ila Maryam wa ruhun minhu. Cheikh Al-Fawzani explique ce verset, il dit يعني أن الله ينهى أهل الكتاب عن الغلو والغلو هو مجاوزة الحد يقال غلاة القدر إذا ارتفع إذا يعني غلى القدر يقال غلى القدر غلى القدر pardon يقال غلى القدر إذا ارتفع الماء فيه بسبب الغليان فخرج عن الحد الطبيعي. Donc, le cheikh, il explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala interdit aux gens du livre d'exagérer, de tomber dans l'extrémisme qu'on appelle en arabe al-ghulu. Al-ghulu. Donc ça, ça veut dire quoi al-ghulu? C'est de transgresser la limite et de dépasser la limite. Quand on parle du terme ghulu en arabe, on dit par exemple le verbe ghala, hein, ghala yaghlu. Donc quand tu dis ghala al-qidr, ça veut dire c'est comme une bouilloire, lorsque tu la mets sur le feu pour faire bouillir de l'eau, à un moment donné l'eau commence à bouillir, puis le couvercle commence, l'eau commence à monter, puis le couvercle se soulève parfois, on appelle ça al-ghalayan, c'est-à-dire le fait que l'eau bouille et que ça fait sortir l'eau, ça fait yani, que l'eau bouille et bouge, et ça fait bouger le couvercle et tout. On dit que quand l'eau se soulève comme ça, on dit que c'est al-ghalayan. C'est de là que vient le terme rouleau. C'est pour dire que quelque chose dépasse sa limite habituelle ou sa limite naturelle. Donc, le cheikh, il dit: wal rouleau kathirun fin nasara.
فإنهم تجاوزوا الحد في عيسى حتى رفعوه فوق المنزلة التي أعطاه الله إياها فنقلوه من حيز النبوة إلى أن اتخذوه إلها من دون الله يعبدونه ولهذا قال عز وجل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم والطوائف والنصارى طوائف منهم من يقول إن الله إن المسيح ابن الله ومنهم من يقول الله ثالث ثلاثة ومنهم من يقول إن الله هو المسيح ابن مريم ومنهم من يقول ومنهم من هو على الحق فيقول المسيح عبد الله ورسوله. Donc le cheikh il dit que yani l'exagération chez les chrétiens elle est très grande. Il y en a beaucoup de formes d'extrémisme et d'exagération chez les chrétiens. C'est pour ça que tu vois que les chrétiens ils traitent les musulmans d'extrémistes aujourd'hui. Mais pourtant, quand tu regardes par exemple la religion du christianisme elle-même, elle est une forme d'extrémisme, puisqu'ils ont dépassé la limite à propos de Jésus. Et ils l'ont élevé au degré de divinité, yani. Hein? Donc, ils ont dépassé la limite que Allah lui a donnée à propos de Jésus. Et ils l'ont fait passer du degré de prophète au degré de divinité. Et ça, c'est du shirk. Ils l'adorent en dehors d'Allah. Donc, ils ont fait de lui une divinité, une idole. Et le cheikh, il dit que Allah Azza wa Jal a dit dans le verset 171, dans Surat An-Nisa, aux gens du livre, n'exagérez pas dans votre religion et ne dites pas à propos d'Allah autre que la vérité. Le Messie, fils de Marie, est un messager. Hein? Le Messie, fils de Marie, est un messager d'Allah. Une parole venant de lui et une âme qu'il a insufflée en Myriam, hein? Maryam, sa mère. Et une âme venant de lui. Une parole qu'il a insufflée en Maryam et une âme venant de lui. Donc, c'est-à-dire qu'Allah a créé cette âme, puis il l'a insufflée en Marie comme un miracle. Après, il dit, فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ. Donc, croyez en Allah et son messager. Et ne dites pas trois. C'est meilleur pour vous. Il dit que les chrétiens sont divisés en plusieurs groupes. Parmi les chrétiens, il y en a qui disent que le Messie, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Il y en a d'autres qui disent, non, c'est une trinité. Donc, Jésus, c'est Dieu le Père, et c'est Dieu le Fils. Puis, il y a Dieu le Père, puis Dieu le Saint-Esprit, puis les trois, ça fait un. Il y en a d'autres qui disent aussi parmi eux que Allah c'est le Messie, fils de Marie. Et il y en a d'autres qui disent la vérité, c'est-à-dire qui disent qu'est-ce qui est vrai à propos de Jésus. Ils disent que c'est un serviteur d'Allah et son messager. Donc ils sont d'accord avec la vérité par rapport à ça. Donc ça c'est un des groupes parmi les chrétiens. Le cheikh il dit ensuite. الشيخ الزي اللي اكسبليك واليهود مقصرون عن الحق والنصارى غالون فيه استدير ابن تيميه الزي لي جويف ils sont laxistes par rapport à la vérité, ils diminuent, ils font pas assez, tandis que les chrétiens eux c'est le contraire, ils exagèrent par rapport à la vérité, ils rajoutent, ils en mettent trop. Donc les chrétiens, les juifs ils en font pas assez. Et les chrétiens, ils en font trop. Le cheikh Al-Fawzan, il dit, à ce sujet-là, ça c'est le passage numéro 30, il dit, يعني أن النصارى يتصفون بالغلو وكونهم زادوا في شرع الله سبحانه وتعالى ما ليس منه واليهود مقصرون لأنهم عرفوا الحق فحادوا عنه ولم يعملوا به ومقصرون في حق المسيح ابن عليه السلام حيث جحدوا نبوته وقالوا إنه ولد بغي تعالى الله عما يقولون
وَنَزَّهَ رَسُولَهُ عَمَّا يَقُولُونَ. Donc le cheikh il dit que les chrétiens, ils sont décrits comme étant des gens qui sont dans l'exagération et l'extrémisme. Pourquoi? Parce qu'ils ont ajouté dans la législation d'Allah ce qui n'en fait pas partie. Et les juifs, eux, eh bien c'est le contraire, ils sont trop laxistes. Ils ont enlevé de ce qui est obligatoire. Parce qu'ils ont connu la vérité, et ils se sont détournés de cette vérité-là, ils ne l'ont pas appliquée. Donc ils sont en déficience et en manque par rapport à Jésus, par exemple. Ils n'ont pas respecté Jésus comme il faut, ou pas du tout même. Puisqu'ils ont rejeté sa prophétie, ils ont dit non, ce n'est pas un prophète. Et en plus, ils l'ont accusé d'être un bâtard. Ils l'ont accusé d'être un enfant illégitime qui est né en dehors du mariage. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a purifié Jésus de ces deux choses-là. Il a fait de lui un prophète et non un dieu ou une divinité. Et en même temps, il a créé d'une manière miraculeuse, c'est-à-dire sans père du tout. Hein? Il a créé dans le ventre d'une femme, Mariam, et sa naissance était miraculeuse. Donc ça c'est le passage 30. Après le passage 31, il dit فَأَمَّا وَسْمَ الْيَهُودِ بِالْغَضَبِ وَالنَّصَارَ بِالضَّلَالِ فَلَهُ أَسْبَابٌ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ وَلَيْسَ هَذَا مَوْضِعُهَا. Cheikh Ibn Taymiyyah il dit, en ce qui concerne la description des juifs par la colère et des chrétiens par l'égarement, il y a des signes et des causes apparentes à ça, et il y en a des causes cachées aussi, et ça c'est pas l'endroit pour détailler ça ici. Donc Cheikh Al-Fawzan il explique, il dit le passage numéro 31, il dit al-maqsoud anna Allah wasafa al-yahud bil-ghadab alayhim wa hum al-umma al-ghadabiyya wa wasafa an-nasara bid-dalal wa lidhalika asbab tata'allaqu bi-af'alihim وهم على طرفي نقيض فاليهود مقصرون والنصارى غالون ومتجاوزون وخير الأمور الوسط وهو الذي أرشدنا الله إليه في سؤالنا إياه في سورة الفاتحة الكتاب في كل يعني في فاتحة الكتاب في كل صلاة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم فهو الطريق الوسط بين الغالي والجافي والغالي الضال والجافي المغضوب عليه. Donc il dit le cheikh que qu'est-ce qu'on veut dire ici, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les juifs par la colère contre eux, que c'est la umma de la colère, c'est-à-dire que Allah est en colère contre eux. Il a décrit les chrétiens par l'égarement, hein, et parmi les causes de ça, c'est certaines de ces causes là c'est des actions. Hein? Et yani, en général c'est à cause de leurs actions, et les deux sont à deux extrêmes différents. Les juifs eux sont trop laxistes, et les chrétiens sont trop extrêmes. Ils ont tous donc dépassé la limite, et le meilleur aspect ou la meilleure caractéristique, c'est d'être dans le juste milieu et d'être modéré. Et c'est ça ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de lui demander. Il nous a orienté de lui demander d'être au juste milieu, hein, par rapport à ces choses-là. Dans Surat al-Fatiha, dans chaque salat, on fait ce dua dans Surat al-Fatiha en disant « Guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux sur qui tu as mis ta grâce » ou « le chemin de ceux qui ont yani, sur qui tu as mis ta grâce ». Donc ça, c'est le chemin du juste milieu entre le chemin des extrémistes et le chemin des laxistes. Hein, ceux qui exagèrent, ce sont les égarés, et ceux qui sont laxistes, ou qui font pas assez, ce sont ceux qui ont la colère d'Allah contre eux. Après, il dit, وَجِمَعُ ذَلِكَ أَنَّ كُفْرَ الْيَهُودِ أَصْلُهُ مِنْ جِهَةِ عَدَمِ الْعَمَلِ بِعِلْمِهِمْ فَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقِّ وَلَا يَتَّبِعُونَهُ قَوْلًا وَعْمَلًا. Donc, il dit que, pour résumer tout ça, on peut dire que la mécréance des juifs à la base, ça vient du fait qu'ils n'appliquent pas la science qu'ils ont, ils ne la mettent pas en pratique. Donc, ils n'appliquent pas la vérité, ils n'agissent pas selon la vérité, et ils ne la suivent pas, ni en parole, ni en action. Ça, c'est le passage 32. Après, Cheikh Al-Fawzan, il explique ce passage-là. Il dit, « هذه صفة اليهود يعلمون ولكنهم أخذوا العلم وعطلوا العمل والعمل إنما يراد للعمل والعلم إنما يراد للعمل لا يراد لذاته. » Donc le cheikh il dit, ça c'est la description des juifs. Ils savent, mais ils ont pris la science et ils ont annulé les actions. Et il dit que la science en elle-même, c'est pas ça ce qui est voulu. C'est pas juste le but là, c'est pas juste d'avoir de la science, mais c'est d'appliquer cette science. فَإِذَا خَلَى مِنَ الْعَمَلِ أَصْبَحَ لَا قِيمَةَ لَهُ. Donc si cette science elle ne produit pas des actions et de la pratique, eh bien cette science n'a plus de valeur. بل أصبح حجة على صاحبه يوم القيامة. Même que cette science, elle va devenir une preuve contre la personne au jour de la résurrection si elle ne l'applique pas. لأن الذي يعصي الله على بصيرة أشد من الذي يعصي الله على جهل. Il dit parce que celui qui désobéit à Allah par ignorant, avec connaissance, il est plus grave et plus dangereux, il est plus en danger. Et c'est, qu'est-ce qu'il fait? C'est plus grave que celui qui désobéit à Allah par ignorance. Après, le cheikh il dit, وَكُفْرُ النَّصَارَ مِنْ جِهَةِ عَمَلِهِمْ بِلَا عِلْمٍ فَهُمْ يَجْتَهِدُونَ فِي أَصْنَافِ الْعِبَادَاتِ بِلَا شَرِيعَةٍ مِنَ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ. Donc le cheikh il dit, tandis que la mécréance des chrétiens, ça vient du fait que ils n'appliquent pas leur science. Donc, ils font des efforts dans différentes sortes d'adoration sans avoir une législation venant d'Allah sur ces questions-là. Donc, ils disent à propos d'Allah ce qu'ils ne savent pas. Ça, c'est le passage numéro 33. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique. Il dit, « Kufru al-Nasara, innama istahakuhu min jihati annahum akhadhu al-amal » أخذوا بالعمل وعطلوا العلم ف عملوا على غير هدى ولا بصيرة. Donc le cheikh il dit la mécréance des chrétiens vient du fait que, ou ils l'ont mérité du fait qu'ils ont pris la pratique religieuse mais ils ont annulé la science et la connaissance religieuse, et donc ils ont appliqué des choses et pratiqué des choses sans guidance et sans clairvoyance. Et ils ont délaissé la science complètement, la connaissance de la religion, ils l'ont délaissé complètement. Et ils ont dit, le cheikh dit, wa qalu, wa zahadu fil ilm, wa qalu innahu yushghiluna 'an al-'ibadati wal 'amal. Wa hadhihi maqulatun la tazalu 'ala al-sinati as-sufiyya ila waqtina al-hadir. Fa hum yunaffiruna min al-'ilm wal 'ulama wa yastaghilluna ويشتغلون بالذكر والتصبيح وقيام الليل دون أن يأخذوا حظا من العلم الذي يعصمهم من الوقوع في معصية الله دون أن يشعروا وزين لهم الشيطان فعلهم فرأوه حسنا فلا بد من الجمع بين الأمرين العلم النافع والعمل الصالح. Donc le cheikh il dit la mécréance des chrétiens, donc on l'a lu. Après, il dit, ils ont dit que la quête de la science, ça nous distrait de l'adoration et de la pratique. Donc, on veut pas chercher la science. Parce que nous, on veut se concentrer sur la prière, sur le jeûne, sur l'adoration, les choses de l'adoration, qu'est-ce qui a rapport avec le cœur. Si on cherche la science, eh bien, on pourra pas se concentrer plus sur l'adoration. Donc eux ils pensent que l'action c'est plus important que la science, alors que la science on sait que ça vient avant. Et il dit le cheikh que cette parole là qu'ils disent qu'ils veulent pas être distraits par la science, ils veulent se concentrer sur l'adoration, ça c'est une parole que même on retrouve aujourd'hui à notre époque chez les soufis, ceux qui se disent musulmans et qui font partie des sectes soufistes. Ils font fuir les gens de la science et ils les éloignent des ulama, Ils disent aux gens, allez pas étudier la science, allez pas vers les ulama, allez pas vers les cours de, qui parlent de l'islam ou apprendre l'islam. Hein, concentrez-vous sur la prière, sur l'adoration, sur le jeûne. Et beaucoup de gens, tu les vois comme ça, ils détournent les gens d'apprendre la religion. Ils détournent les gens d'étudier l'islam. Parce qu'ils pensent que le plus important, c'est la pratique. Et souvent, tu vois, ceux qui agissent comme ça aussi à notre époque, c'est il y a différentes catégories qui agissent comme ça. Il y a Jamaat Tablir. Jamaat Tablir, c'est des gens, ils sont toujours comme ça. Ils disent, mon frère, regarde les musulmans aujourd'hui, ils ne pratiquent pas, ils n'ont pas de pratique. Et la vérité, c'est que c'est pas que les musulmans, ils n'ont pas de pratique. Beaucoup de musulmans pratiquent des choses, mais qu'est-ce qu'ils pratiquent? C'est des bid'ah, c'est du shirk, des choses contraires à l'islam. Et il y en a un justement qui vient du Bangladesh. Une fois, j'ai rencontré un tabliri hein, du Bangladesh. Je le connais depuis très longtemps. Et quand il est venu vers moi comme ça, il me critique. Justement parce qu'il sait que j'ai étudié à Médine et que j'ai appris à l'université islamique de Médine. Donc, il vient vers moi pour dire, ah, toi, tu viens pas avec nous faire khuruj, hein, sortir de mosquée à mosquée, puis aller commencer à faire qu'est-ce qu'on fait. Donc, tu pratiques pas l'islam, toi. Donc, il commence à me dire ça indirectement. Il me dit, ya akhi, tu sais, avoir de la science, c'est bon, mais dis-toi que la science, c'est pas ça le plus important. Même le shaitan, il a de la science. Il y a des professeurs juifs et chrétiens à l'université qui enseignent l'islam, ils ont de la science. Hein? À McGill, ils enseignent l'islam. Dans d'autres universités, chez les Koufars, ils enseignent l'islam. Donc ils disent, avoir de la science, c'est pas ça l'important, c'est l'application. Je lui ai dit, ya akhi, le problème, c'est pas l'application. Déjà, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, fa'lam annahu la ilaha illallah, wa astaghfir li dhanbik. Ça veut dire, sache que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, puis ensuite demande pardon pour tes péchés. Et l'imam al-Bukhari, il a dit à propos de ce verset, ça prouve que la science vient avant la pratique et avant l'action. Et en plus, je lui ai dit, regarde dans les pays musulmans comme au Bangladesh, chez vous et ailleurs, des musulmans qui vont par milliers adorer des tombes et adorer des saints et prier des saints et demander la baraka. Et hein, j'ai dit, ça c'est de la pratique, ça c'est des actions, mais c'est du shirk. Tout ce qu'ils font, ça va rien servir pour eux. Il a dit, oh, mais ça c'est juste une petite minorité, c'est des ignorants. J'ai dit, c'est pas une petite minorité, c'est la majorité des gens qui font ça. Là, quand il a vu que je l'ai bloqué là-dessus, il savait plus quoi dire, alors là il a voulu changer le sujet. Et il m'a dit, pourquoi ils font 21 rakats dans le Taraweh à la Mecque et à Médine? Il dit ça, tu vois, j'ai dit comme, il saute du coq à l'âne. Parce qu'il a vu qu'il est bouché, il est bloqué. Donc là, il veut noyer le poisson hein, avec d'autres choubouhats comme ça pour détourner le sujet. Mais c'est pour dire, le problème, c'est pas que les musulmans pratiquent pas, c'est qu'ils pratiquent des choses mais sans science. Ils font des bid'ahs, ils font de l'égarement. Donc les soufis, ils encouragent beaucoup ces choses-là. Et ils disent aux gens, allez pas étudier le tawhid, allez pas étudier la religion. Même Cheikh Al-Fawzan, il a dit, yani, des fois quand je commençais à faire un cours sur le tawhid dans la mosquée, il y avait un groupe de Jamaat Tabligh qui était dans la mosquée, quand je commence à faire le dars, au lieu de venir s'asseoir pour écouter, ils se lèvent puis ils sortent de la mosquée à ce moment-là. Hein? Donc c'est pour te dire. Et il y a aussi les ikhwan, la même chose. Les Ikhwan al-Muslimoun, c'est la même chose. Ils veulent toujours éloigner les gens des musulmans, des savants musulmans. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent aux musulmans, oh, allez étudier les sciences, allez étudier la médecine, allez étudier les choses de la dunya. Hein? La religion, c'est pas important de l'apprendre. Hein? Vous pouvez tous apprendre un petit peu la religion comme ça, c'est pas grave. Mais concentrez-vous sur la dunya, concentrez-vous sur avoir des bons postes, avoir des gros diplômes. Comme ça, vous allez prendre le pouvoir dans la société, puis vous allez hein, pouvoir par la suite établir l'islam. Comment tu vas faire pour établir l'islam? C'était jahil, c'était ignorant, tu ne connais pas la charia d'Allah. Et après, le problème avec ça, c'est que, étant donné qu'ils savent qu'ils gardent les gens dans l'ignorance de l'islam, ils peuvent les manipuler, les contrôler, leur faire croire n'importe quoi. Et après, ils leur donnent des discours émotifs et sentimentale sur qu'est-ce qui se passe dans le monde et sur l'état des musulmans et sur les gouvernements, puis après les manipulent et ils les font faire n'importe quoi au nom de l'islam. Yani, c'est ça. Donc ça, c'est l'attitude des groupes de bid'a contemporains à notre époque qui mettent en garde contre les savants. Et eux, ils aiment que les gens qui appellent à qu'est-ce que eux suivent parmi les différentes bid'a, comme la bid'a des Khawarij, ceux qui critiquent les dirigeants, qui appellent aux révoltes et aux manifestations et aux coups d'État ou bien aux problèmes. Hein? Quand quelqu'un fait ça, il dit ah oui, lui c'est un savant, lui c'est un grand cheikh. Mais si quelqu'un suit la sunna et avertit contre ces gens-là et s'accroche à la voix des salafs, et ils disent, même si c'est le plus grand savant du monde, ils disent, ah lui c'est un jahil, c'est un ignorant, ou bien ils vont dire que c'est un hypocrite, ou bien ils vont dire de lui que c'est un agent, travaille pour le gouvernement, ou bien ils vont dire de lui que c'est un murji. Hein, ils disent, ah ça c'est des murji'a maintenant, c'est ça qu'ils disent. C'est-à-dire ceux qui... Les murji'a c'est une secte, qui prétendent que les actions, ça ne fait pas partie de la foi. Hein? Donc, ils ne vont pas déclarer quelqu'un qui fait des actes de shirk comme étant kafir ou des choses comme ça. Ou bien, ils ne vont pas déclarer quelqu'un qui fait des péchés comme ayant une foi plus faible. Ils disent, non, tout le monde est égal dans la foi, tout le monde a une foi complète. Donc, eux, ils accusent les savants de Ahl-Sunnah de faire partie de cette secte. Alors qu'en réalité, on sait très bien que, au contraire, c'est eux qui combattent cette secte. Mais yani, ils veulent toujours essayer de faire peur aux gens et de les détourner du droit chemin. Donc, le cheikh, il dit, ces gens-là, ils disent, non, concentrez-vous sur le zikr et le tasbih et la prière de la nuit. Apprenez pas la science, allez pas vers les ulama. Hein? Donc, le cheikh, il dit que yani, ces gens-là, donc ils font fuir les gens de la science et des ulama et ils leur disent de s'attarder à l'adoration sans prendre une partie de la science qui va les protéger de tomber dans la désobéissance d'Allah sans même qu'ils réalisent. Parce que tu peux tomber dans le péché sans le savoir. Et si tu ne cherches pas la science, tu ne vas pas justement être capable de savoir que tu es en train de faire quelque chose qui est haram. Et le shaitan leur a embelli leur action. Et donc, ils ont pensé qu'ils sont en train de faire quelque chose de bien. Donc, il faut réunir les deux. Les actions bénéfiques et la science bénéfique et les bonnes œuvres ensemble. Donc, après, le cheikh, il termine, on va terminer avec cette parole de l'imam Soufiane ibn Uyayna, un des imams parmi les imams des salafs. De l'époque de l'imam Malik, Soufiane ibn Uyayna, il dit, Ibn Taymiyyah, il dit, ولهذا كان السلف كسفيان ابن عيينة وغيره يقولون من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى وليس هذا موضع شرح ذلك. Donc le cheikh explique, il dit, et c'est pour ça que parmi les salafs, il disait, comme Soufiane ibn Uyayna et d'autres, il disait que ceux qui ont été corrompus parmi nos savants ont une ressemblance avec les juifs. Mais ceux qui ont été corrompus parmi nos adorateurs, ils ont une ressemblance avec les chrétiens. Et il dit que ce n'est pas ici l'endroit pour détailler l'explication de ça. Après, Cheikh Al-Fawzan, il commente sur ce point-là, le passage numéro 34, il dit قوله ففيه شبه من اليهود يعني أن من فسد من علماء المسلمين فقد شابه اليهود وذلك بأنه رغم ما حصل من العلم إلا أنه لم ينتفع به وحاد عنه وكان المفروض فيه الصلاح في سلوكه وعبادته عملا بالعلم وأن من فسد من عبادنا وزهادنا ففيه شبه من النصارى الذين أخذوا العمل وتركوا العلم فعبدوا الله على جهالة فهم عصوا الله من حيث أرادوا عبادته وهذا ينطبق على المتصوفة اليوم الذين زهدوا في العلم ومجالسة العلماء
واشتغلوا بالعبادة بزعمهم. والعبادة إذا كانت من غير علم فهي ضلال لا هدى، وشقاء لا سعادة، وتعب لا راحة. Donc le cheikh il explique, il dit, donc ceux qui, quand il dit, Ibn Taymiyyah il mentionne la parole de, sheikh, de l'imam Sufyan ibn Uyayna, il dit que ceux parmi les musulmans, parmi nos ulama qui ont été corrompus, ils ont une ressemblance avec les juifs. Il dit c'est-à-dire que ceux qui ont été corrompus parmi nos savants, eh bien ils ont ressemblé aux juifs. C'est parce que même s'ils ont obtenu de la science, ils n'en ont pas profité. Et ils se sont détournés de cette science. Alors que, qu'est-ce qui était supposé d'être? C'est qu'ils appliquent cette science dans leur comportement, dans leurs adorations, et qu'ils la mettent en pratique pour devenir meilleurs. Mais malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Et qu'est-ce qu'il explique, le cheikh? C'est comme, tu vois par exemple, certains savants parmi les gens de Bid'ah, quand c'est par exemple le temps d'établir les règles d'Allah, puis de donner des fatwas ou d'expliquer la religion aux gens, au lieu de l'expliquer comme il faut, il ne l'applique pas, et non seulement il ne l'applique pas, mais il la déforme. Il déforme la réalité de la religion d'Allah pour égarer les musulmans et pour les tromper. Donc ça c'est le danger de ces gens-là. Ils ont une ressemblance avec Al-Yahoud. Ils déforment la religion comme les juifs l'ont fait. Tandis que parmi les adorateurs et les gens qui se consacrent à l'adoration plus, eh bien, ceux qui ont été corrompus dans ça, ils ont une ressemblance avec les chrétiens. Ceux qui ont juste pris la pratique religieuse, puis qui ont laissé de côté la connaissance et la science de la religion. Alors, ils ont adoré Allah par ignorance. Et donc, ils ont désobéi à Allah du fait qu'ils ont voulu l'adorer, mais ils l'ont adoré incorrectement. Donc ça s'applique aux soufis aujourd'hui qui se sont détournés de la science et du fait de s'asseoir avec les hommes de science. Et ils se sont concentrés sur ce qu'ils pensent être de l'adoration. Hein? Et si vous voulez voir des exemples de ça, écrivez, vous allez sur YouTube, vous écrivez Hadra. H-A-D-R-A. Hadra, Soufia. N'importe quel que vous écrivez, n'importe quel tariqa, Tijaniya ou bien Naqshbandiya ou n'importe quoi. Vous rentrez Hadra, vous allez voir ces gens-là, comment ils s'assoient, comment ils se mettent en rond, comment ils commencent à faire leur fête, comment ils font leur danse. Et puis, ils pensent que ça c'est de l'adoration. Donc ils pensent qu'ils font du bien. Est-ce que tu penses que ces gens-là vont dire aux gens, allez vous asseoir avec les ulama pour apprendre votre religion? Non, parce qu'ils sont trop occupés à danser puis à chanter. Donc le cheikh il dit, ça s'applique donc aux soufis aujourd'hui qui éloignent les gens de la science et de s'asseoir avec les ulama et qui pensent se préoccuper de l'adoration selon ce qu'ils prétendent. Et il dit, l'adoration, si elle est faite sans science, alors c'est de l'égarement. Hein? C'est de l'égarement et ce n'est pas de la guidance. C'est du malheur et non pas du bonheur. Et c'est de la fatigue et non pas du repos. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah. Puis, au prochain cours, on continuera la suite avec le hadith. Hein? Un hadith très important rapporté selon Abu Sa'id al-Khudri, qui explique justement un point très 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 important à ce sujet-là. Donc on va le laisser pour le prochain cours, Inch'Allah. Et on va rentrer donc encore plus en détail dans le sujet. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.